Comme c'est très difficile de se farcir 20 minutes d'épisode d'une seule traite, nous vous proposons un petit entracte musical afin de vous aider à vous ressourcer. Devant l'agacement provoqué par cet entracte musical, nous préférons l'abréger et revenir directement à notre programme principal.
Retournons à présent à l'école de Proutlard, où l'instruction de la petite Marianne a commencé.
Sais-tu lire, Marianne ?
Non.
Raida Dropnokten.
À présent, tu sais. Tiens, lis donc ce chapitre sur l'initiation à la préparation de potions. Pendant ce temps, je m'en vais quérir quelques ingrédients dans la forêt.
Alors que la jeune écolière potassait les merveilleux secrets de la cuisine druidique, l'enchanteur se consacrait à remplir sa besace de moult champignons et de racines suintantes de sève. Mais alors que celui-ci s'adonnait en toute candeur à sa vocation, une sombre menace s'approchait de lui.
Tiens, des fraises sauvages, ingrédient indispensable à la préparation d'une succulente confiture.
Oh, mais... Absolument, vieillard velu. Et voici mes deux plus brillants élèves, Binocle et Soufflade.
Bonjour, désolé pour le coup d'œil laser dans votre jambe, hein, c'est pas personnel, j'obéis quoi.
Mais je vous en prie.
Il suffit. Alors, vieux marabout en train, où est la fille ?
Je...
Oui ?
Je l'ai mangée.
Il veut se faire plus démoniaque qu'il n'est. Je suis sûr qu'il bluffe. Binocle !
Oui, professeur ?
Envoie le coup de grâce à ce vieux crouton !
Bien, patron. Pardon, hein, mais...
Oui, faites donc. Oh !
Bien, partons. Et poussez-moi, Soufflade. Je n'aime pas faire rouler ma chaise en forêt.
Oui, professeur.
Mais... Comment je lui ai fait payer à ce vieux Steve Grimoire ? Il fait moins le mal que...
Professeur ? Il est mort ?
Mais c'était quoi, ça ?
J'en sais rien. Filons.
Charles !
Désolé, pas. Je pensais que c'était un sanglier.
Une fois encore, le bruit du coup de feu fut entendu. Dans la cabane, Marianne avait sursauté.
Hein ? C'était quoi ce bruit ?
À la fois curieuse et inquiète, elle se précipita à l'extérieur et découvrit, non loin de là, son mentor agonisant.
Monsieur Berlu !
Marianne !
Que vous est-il arrivé ?
C'était les mutants. Écoute-moi, garde la cabane. Continue seul. Lis tous les grimoires. Exerce-toi, puis fonde cette école pour moi.
Quoi ? Mais il y a des tonnes de livres ! J'en ai pour 20 ans !
Il le faut. L'humanité périra si elle place sa foi aveugle en la science. Il faut conserver la magie, notre patrimoine antique, face à un jour mondialisme.
Monsieur Berlu !
Derrière son caractère bourru, Marianne était quelqu'un de fragile, qui culpabilisait facilement. Aussi, elle honora le vœu de l'enchanteur en consacrant sa vie à la magie. Après tout, c'était toujours mieux que d'être restée à l'orphelinat pour finir par être vendue à un tanneur ou à un tenancier de bordel. En fin d'après-midi, dans la cour du château, l'âne patientait, attendant de pouvoir rentrer dans son box à la ferme et rêvant au foin savoureux qui l'attendait là-bas, pendant que son maître palabrait avec le cuisinier du château, celui-ci tentant de trouver des défauts aux carottes de Samuel.
Y'a une boulette de terre, là. Un écu en moins sur le lot.
Et mon point, y'en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Pour s'occuper, l'âne mirait niaisement toute cette activité humaine qui l'entourait. Il vit notamment un homme qui semblait avoir du mal à déglutir sa salive alors qu'il regardait en direction de Nasila, l'épouse de Samuel.
Trop bonne.
Ou encore, tiens, un étrange individu encapuchonné qui se déplaçait furtivement en direction d'une jeune fille très distinguée. Cela intrigua quelque peu l'âne. Dit une porte en s'ouvrant violemment non loin de là.
Mais enfin, c'est illogique. Pourquoi le voleur viendrait-il dans la cour là où sa grouille demande ?
Justement parce qu'on ne le chercherait pas là. Et puis c'est le seul endroit du château que nous n'ayons pas déjà fouillé.
Ah ben oui, tiens.
Mais au fond, sire, pourquoi ne pas tout simplement utiliser votre magie pour retrouver cette vermine ?
Mais c'est que c'est délicat la magie ! On ne peut pas agir sur une personne qu'on ne puisse voir ou même nommer, hein ?
L'âne, qui se trouvait tout près, observait la scène. Doté d'une certaine perspicacité typique des mammifères, il comprit que le malaise de ces deux bavards devait être lié au patibulaire encapuchonné qu'il venait de voir passer. De nature sociable, il s'élança donc, et à grands coups de braillement strident, il s'efforça d'avertir les deux hommes.
Oh, mais que c'est mignon! Un petit âne qui demande un nonos.
Méfiez-vous, sire, il est peut-être dangereux.
Mais non, voyons, regardez-le, on dirait qu'il essaye de dire quelque chose.
Je vois mal ce qu'un baudet pourrait avoir à dire.
Ben voyons ça, petit âne, je te donne la parole.
Hé, mais je sais parler.
Bah oui, c'était l'idée.
Sire, nous perdons du temps. Il faut trouver ce voleur.
Dites, j'ai vu un type bizarre jusque là-bas sous le porche. Ce serait pas lui que vous cherchez, des fois?
Ah, le type à capuche, là, mais qu'a-t-il en main? Oh, on dirait
la... Et là, si c'était un film, la caméra zoomerait brusquement et on verrait la bague dans la main du type.
Halte là, voleur! Chose promise, chose due.
Bien joué, votre Altesse. Je vais ramasser la bague pour vous.
Excellent, mon petit... Van Prune.
C'est mon métier, sire.
Eh bien, c'est finalement cet âne qui a résolu l'enquête.
C'est trop la classe.
Alors, vous comprenez que pour votre promotion, ben...
Mais sire, Que faites-vous? Veuillez me donner ce bijou, mademoiselle. Princesse, que faites-vous hors du château?
Il s'agissait de la jeune noble que l'âne avait vue en compagnie du voleur. Celle-ci avait ramassé l'anneau qu'elle tenait fermement dans sa main, tout en fixant le souverain d'un regard malveillant.
Bonjour, père.
Ah, eh bien, ma petite, qu'attends-tu pour me rendre ma bague?
Cet anneau était celui de mère.
Ben, je sais bien, c'est moi qui lui ai offert en notre jeune temps, tout ça.
Elle m'avait confié cela. Ainsi que l'importance qu'avait cet anneau pour vous deux.
Eh bien, dans ce cas, tu iras volontiers de le rendre à ton vieux papouni, hein?
Cette bague était la condition de mère pour qu'elle accepte de vous épouser. Une bague qui immunise qui la porte contre tous vos pouvoirs. Ainsi, elle pouvait être sûre que vous ne la commanderiez point par quelque sortilège, qu'elle pourrait demeurer libre.
Si tu pouvais parler un peu moins fort, ma pioupioutin?
Il suffit, père. La nuit dernière, j'ai atteint l'âge de la maturité. Et j'ai à présent, moi aussi, la maîtrise des pouvoirs que nous a légué grand-mère Morgane.
Quoi? Mais...
Père, je ne supporte pas ce que vous avez fait de ce royaume. L'avenir de notre famille est la grandeur et la conquête. Votre royaume stagne dans sa médiocrité. Je vais vous le prendre, père.
Quoi? Mais...
Sire, que puis-je faire?
Avec la bague de mère, me voici invincible à vos sorts. Mais vous ne l'êtes pas au mien. Je vous chasse, père. Je reprends votre trône. Soyez banni et que votre mémoire s'écroule.
Dans un violent éclair lumineux, le roi s'évapora pour réapparaître, à bien des lieues de là, au sommet d'une montagne brumeuse, amnésique, tout groggy et sans ses attributs royaux, bagues et couronnes, objets métalliques ayant mal réagi au sortilège de téléportation de la princesse. Princesse, qui s'avéra être encore trop jeune et trop fragile pour maîtriser un sort d'une telle puissance, si bien qu'après coup, elle tomba dans le coma. Le peuple, quant à lui, fut pris de panique, car le royaume se retrouvait dès lors sans souverain ni héritier. Hein. Tout naturellement, bon, ce fut le chancelier du royaume qui prit la régence. C'est d'ailleurs toujours lui qui règne en faisant bien son boulot au moment des histoires que vous connaissez. Hein. Et ce, en attendant que la princesse sorte de sa torpeur. Ou que le roi revienne, tout simplement, mais vous vous en doutez, il aurait un petit peu de mal. Hein. Le caporal von Brüten, quant à lui, fut élu capitaine de la milice par le régent en raison de sa loyauté envers le roi et de sa brillante participation à l'enquête du vol de l'anneau.
Ah ben quand même.
L'âne, pour sa part, repartit juste dans sa ferme avec ses maîtres, qui n'en revenaient pas d'avoir un âne qui parle, on les comprend, hein. Quant au roi, il erra bien des jours au sommet de sa montagne, mais très vite, il redécouvrit qu'il était magicien et put ainsi se faire à manger et faire apparaître un mobilier confortable dans une petite grotte qui se trouvait là.
La nature est bien faite, hein?
Oui, au fond, le souverain déchu se plaisait bien dans ce paisible endroit. Mais, quelques matins plus tard...
Y a quelqu'un?
Ah, mais fichu brouillard, on n'y voit rien, j'ai scandalé,
oh,
mais...
C'est vous? Vous êtes le mage?
Hein? Ah, mais c'est vous qui gueuliez comme ça. Moi, je pensais que c'était le vent. Hein.
Incroyable! Je pensais que ce tavernier me racontait des sornettes.
Quoi? Do you speak French? My tailor is rich?
On m'a dit que ce n'était qu'une vieille légende, mais c'est donc bien vrai.
my flowers are beautiful.
Vous êtes donc bien le mage du sommet de la montagne qui exauce un vœu en échange de quelque chose?
Ah bah oui, je suppose.
Magnifique. Oh monsieur le mage, j'aimerais tant, j'ai aperçu une femme l'autre jour dans la cour du château, elle était si belle. Je n'endors plus de penser à elle. J'aimerais que vous m'accordiez son amour.
oui mais...
Tenez, en échange, je vous donne la plus belle pièce de ma marchandise. Je travaille dans l'import-export, voyez-vous, et...
Oui, mais...
Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autruche, un animal qui vient d'extrêmement loin.
Oh, mais c'est magnifique. Je ressens comme... C'est comme si un vide en moi présent depuis toujours venait de disparaître. C'est merveilleux.
C'est vrai? Elle vous plaît? Alors vous voulez bien m'offrir l'amour de cette nancy-là, hein? Dites oui, allez, dites oui.
Ah, mais ça a l'air sympa, ça, exaucer des vœux en échange de quelque chose. Je sens que ça va me plaire, ce boulot de mage. Alors donc c'est parti. Nancy-là.
Et oui, aussitôt ces mots prononcés, Nassila quittait Samuel sans explication. Celui-ci tomba en dépression et noya son chagrin dans les biscuits sucrés avec, pour seule compagnie, un âne sarcastique. Le roi était devenu mage en endossant le rôle d'un personnage inventé par un ivrogne qui voulait se rendre intéressant 2 siècles plus tôt. Quant à cet homme qui fut donc le premier client de ce mage fraîchement incarné, c'était un certain Frédéric. Et il put se faire aimer de Nassila et l'épouser. Mais il faut savoir que Fred était alors un grand commerçant qui voyageait beaucoup. C'est pour cela qu'il pouvait se permettre de troquer une autruche.
Ah, je t'appellerai Gertrude.
Mais ce que Fred ignorait, c'est qu'au cours de l'un de ses voyages dans des contrées éloignées, un sorcier furieux d'avoir été entubé lors d'une transaction l'avait maudit. Fred ne pouvait dès lors plus avoir que des enfants tarés. Il eut 12 rejetons, mais pas un ne rattrapait l'autre. Déprimé par son échec familial, Frédéric sombra dans l'alcoolisme et son business s'écroula. Il dut se faire bûcheron pour pouvoir faire vivre sa famille. Et oui, faut dire que c'est pas facile d'avoir 12 bambins tarés, dont notamment une fille terriblement... très, très moche.
Moralité de l'histoire.
La fin justifie les débuts. Et inversement. Ah, de la balle cet épisode, hein, hein?
Bonsoir, monsieur Grimm.
Carlette ?
Carl Kelt.
Oui, on s'en fout, mais qu'est-ce que vous faites là ?
Le moment est tout simplement venu, monsieur Grimm.
C'est une fléchette.
C'est fait, monsieur Flagstaff.
Bien, voici donc l'homme qui a pu revenir d'entre les morts. Tiffany ?
Monsieur.
Faites-le sortir.
Bien, monsieur. Vous deux, emmenez-le dans la camionnette et soyez discrets.
Ok.
Ouais.
C'est quoi cette daube ? C'est trop bien. C'est comme si j'avais bu 10 bouteilles de l'artisanat.
Excellent travail, monsieur Kelt. Voici votre chèque.
Merci, monsieur.
Il va sans dire que votre salaire est à la hauteur des copieux bénéfices que mon entreprise pharmaceutique fera lorsque nous aurons analysé et cerné le secret de l'immortalité.
Eh bien, je vous souhaite de réussir.
Quant à vous, mademoiselle Clotilde, merci pour vos renseignements.
Je ne suis pas fière de moi, mais avec mon enfant, je n'ai pas eu le choix.
Vagin d'ours!
Monsieur Kelt, pourriez-vous donner sa récompense à notre ami?
Bien, monsieur.
Oh, merci, monsieur Flagstaff. C'est qu'avec mon maigre salaire d'esthéticienne, je...
Si cet enfant est bien celui d'Esbagrim, pourquoi se priver d'un sujet supplémentaire à disséquer? Emmenez-le, Tiffany.
Oui, monsieur. Dépêchons-nous. Votre jet est prêt pour décoller à 23h30.
Bien. Adieu, monsieur Kelt.
Adieu. Mais et pour l'avocat? Qu'avez-vous prévu?
Schneider ne posera aucun problème. Et nous savons qu'il est celui qui a saboté les freins des parents.
Quoi?
Vite, monsieur Flagstaff, il faut partir, là.
Quoi?
Je compte sur votre discrétion, monsieur Kelt.
Oh merde, mais qu'est-ce que j'ai fait?
This is the end.
beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is the
Ah.